cette attaque informatique qui frappe le réseau montréalais de la santé, les hôpitaux, les principaux, en fait presque tous les hôpitaux de l'île de Montréal sont frappés par cette attaque informatique. Jean-Nicolas Aubé est porte-parole du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Jean-Nicolas Aubé, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, le CIUS du Centre-Sud, ça, c'est quel hôpital, ça, là, juste qu'on
sait? Le CIUS du Centre-Sud regroupe deux hôpitaux, qui sont l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de Verdun. Mais immédiatement, d'entrée de jeu, M. Drainville, je tiens à rassurer la population. Là, ce n'est pas le réseau de la santé qui est victime d'une attaque. Les hôpitaux sont fonctionnels. Les gens n'ont pas à s'en faire. Nos services informatiques fonctionnent bien. Ce qui a été touché par une attaque informatique, ce sont les sites d'information des CIUS. Donc, quand vous naviguez sur Internet et que vous consultez, par exemple, la plateforme du CIUS Centre-Sud, c'est cette plateforme-là qui a été victime d'une attaque. Tous nos systèmes fonctionnent bien, les hôpitaux fonctionnent bien, les gens n'ont pas à avoir peur. Et si, et je le dis aussi, là, si les gens souhaitent obtenir des informations sur les soins et les services, ils peuvent le faire en contactant le 514-842-7226. Voilà.
Et ça, c'est bon pour l'ensemble des CIUS qui sont présentement attaqués, là, c'est ça?
Bien, pour l'instant, c'est un numéro qui est bon pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Mais comme vous l'avez bien dit, là, la situation présente, c'est pas une situation qui affecte uniquement le CIUS centre-sud. Là, c'est une situation qui affecte 4 CIUS sur 5 à Montréal. Donc, CIUS à Montréal, plus le portail Santé Montréal. Ce qui est très important là, à dire dans la situation présente, c'est qu'il n'y a aucune donnée d'usagers sur nos deux sites du centre-sud. Donc, les gens n'ont pas à craindre là, de penser que leur dossier santé va se retrouver dans des mains malhonnêtes. Ce n'est pas le cas. Et je vous dis aussi que le CIUS n'héberge pas les sites en question. Ce sont des sites qui sont hébergés par une compagnie québécoise qui s'appelle Libeo, L-I-B-E-O. Alors, nous, par mesure de précaution, on a décidé de fermer ces sites-là le temps de les nettoyer et on travaille évidemment intensément à remettre ces sites-là sur pied le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'ils renferment de l'information importante pour la population.
Alors, l'attaque a commencé quand?
Ça a débuté le 29. Nous, dans le fond, on a un problème avec nos sites web depuis le 29.
Le 29 novembre.
Okay. Malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails quant au contenu à la source exacte de l'attaque parce que je ne suis pas un spécialiste.
OK, mais est-ce qu'ils vous ont demandé est-ce qu'ils vous ont demandé de l'argent, par exemple, pour que cesse l'attaque puis que vous puissiez reprendre le contrôle de vos sites Internet? Avez-vous...
Moi, je n'ai aucune information à cet effet-là, M. Drainville. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des fichiers malveillants. Et, mais je n'ai pas d'information relativement à de l'argent ou à des, à des rançons.
OK. Aucune idée, donc, de qui sont ces pirates informatiques?
Pour l'instant, non.
OK. Mais tout ce que ça fait, enfin, c'est pas rien, là.
Ce n'est pas rien, en effet.
Que vos sites Internet, les sites Internet sur lesquels les gens, les sites Web sur lesquels les gens peuvent aller pour s'informer sur le fonctionnement de 4 des 5 CIUS de l'île de Montréal, bien, ces sites-là sont désactivés présentement.
Oui, pour l'instant.
OK. Et la raison pour laquelle vous les avez fermés, c'est que quelqu'un en avait pris le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est pas une question de quelqu'un qui en a pris le contrôle. Comme je vous dis, nous, on a reçu on a constaté qu'il y avait des fichiers malveillants qui pouvaient représenter un risque pour ces sites-là. Nous les avons donc fermés. Là, comme je vous dis, c'est vraiment une question de précaution. Puis je le redis, parce que je sais que le temps file, mais c'est vraiment important que les gens sachent qu'il n'y a aucun problème avec les hôpitaux.
Okay. On a bien compris. Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci, M. Aubé.
Merci beaucoup.
On va aller rejoindre Steve Waterhouse, qui est un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, qui est conseiller en sécurité informatique. Bonjour, Steve.
Bonjour, Bernard.
C'est pas la première fois que des plateformes gouvernementales sont attaquées. Est-ce que vous faites un lien entre ces différentes attaques?
Bien, à chaque jour, Bernard, il y en a partout qui se passent à travers le monde de ces attaques-là. Puis ça, c'est encore une fois, sans connaître, comme tu as demandé, il n'y a pas de revendication. Ça indique pas que le site a été investi pour être en mesure de redonner une rançon. Mais ce qui est surprenant là-dedans d'apprendre, c'est qu'il est hébergé non pas sur les serveurs du gouvernement du Québec, mais il s'est hébergé à l'extérieur, Ça, je suis un petit peu surpris d'apprendre. Cependant, de plus en plus, les services publics deviennent le portail premier à ce que l'information soit communiquée. Et si les sites comme ça, je veux dire, ça, à chaque jour, on peut s'attendre qu'ils soient toujours disponibles, mais on doit s'attendre qu'ils soient disponibles. Mais s'il arrive toujours des incidents comme ça, puis encore là, je dis toujours, mais il faut s'attendre maintenant, les services informatiques et les services de sécurité doivent toujours s'attendre à ce que ça va arriver. Il y en aura d'autres pannes de cette façon-là. Et je suis d'accord avec l'intervenant où ce que les données sont hébergées ailleurs où ce que le site présentement affiche l'information. Fait que ça, c'est un point important qu'il a souligné et c'est vraiment le cas.
Mais est-ce que moi aussi ça m'a frappé là quand je l'ai entendu dire que le site était hébergé par une entreprise qui s'appelle Libéo. Est-ce que c'est fréquent ça que des institutions gouvernementales donnent le contrôle de leur site web à une entreprise privée? Est-ce que c'est fréquent ça?
Ça arrive à l'occasion pour des souvent ça va être pour des preuves de concept qui vont faire affaire avec une compagnie tierce. Ils vont faire le développement de l'idée, le développement du site web. Après ça, ils peuvent l'héberger. Puis, on l'avait vu, Bernard, lorsqu'il y avait eu la commission Charbonneau. Puis là, j'avais dénoncé le site qui avait été hébergé par vraiment un site web qui était bric-à-brac. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'était vraiment à l'état du site. Et que ça a donné lieu, après le coup, que le site web a été rapatrié à Québec et hébergé et structuré à la façon qu'un site web doit être à la valeur gouvernementale. Fait que là-dessus, je ne sais pas ce qui était le fondement de l'idée pour que ça soit maintenant le cas avec les CIUS de Montréal.
Est-ce que alors s'il y a une attaque informatique contre ces sites web là, est-ce que l'attaque à ce moment-là elle est dirigée contre les hôpitaux qui sont un peu le siège de ces différents CIUS là, ou est-ce que c'est dirigé contre la compagnie Libéo qui héberge le site web? Est-ce que tu le sais ça?
Présentement, avant d'entrer en onde, j'ai pas pu mettre la main sur l'information, mais les deux scénarios qui t'apportent sont très probables. Autrement dit, si on se ramène il y a quelques années, il y avait eu des revendications de l'armée syrienne qui avait fait du cybervandalisme sur des pages web d'un paquet d'entreprises et de services dans la région de Montréal, et pour établir qu'eux avaient tout simplement ciblé un fournisseur qui hébergeait multiples sites web et qu'à ce moment-là, pour eux, là, c'est juste d'aller faire, encore une fois, afficher leurs revendications politiques. En même temps, c'est comme une école pour les hackers. Eux autres, ils peuvent dire, ben voici, j'ai fait cet exploit-là et je suis maintenant dans la gang. L'autre partie, si jamais c'est pour attaquer et cibler les services publics, qu'on peut appeler donc pour les services hospitaliers, c'est rare, parce qu'ils vont faire le tour, si on peut dire comme ça, ils vont explorer, ils vont découvrir qui sont les services et ils vont aller vers le pot de miel en arrière où ils vont aller chercher qu'est-ce qui est important.
Mais qu'est-ce qu'ils cherchent, justement, Steve Waterhouse, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand ils attaquent un site web comme ça, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est juste de montrer leur pouvoir de nuisance, ou il y a quelque chose derrière ça?
Bien, ceux qui vont le faire pour montrer le pouvoir de nuisance vont être les hackers de bon niveau, ce qu'on appelle les amateurs, les script kiddies. Eux vont y aller c'est des amateurs, ceux qui vont découvrir la technologie, puis ils vont y aller là, comme j'expliquais, pour prouver leur capacité.
Oui, oui.
Quand on va dans le monde professionnel, criminel ou même étatique, eux, ils vont aller s'investir dans le site pour aller extirper de l'information, donc prendre l'information personnelle pour être capable de s'en servir à d'autres fins.
Mais si c'était ça, Steve, il s'attaquerait pas au site web de l'hôpital, il s'attaquerait au système de données des hôpitaux, c'est-à-dire là où sont les renseignements personnels, là où sont, par exemple, les résultats d'analyse, les résultats d'imagerie médicale. Là, tu as de l'information personnelle, tu as l'âge, tu as l'adresse, tu as le numéro de carte d'assurance maladie. Il me semble que si c'était ça l'idée, ce serait ils attaqueraient ailleurs que sur le site web, non?
Parfaitement en accord avec toi, Bernard. Cependant, la porte d'en avant, elle est mauditement bien gardée. Donc, ils veulent s'en prendre avec une porte alternative, une porte derrière. Autrement dit, les sites web d'organisations subordonnées, que souvent la sécurité va être moins considérée. Et après ça, peuvent souvent s'infiltrer par des sites comme ça, connexes, et après coup, rentrer justement par la porte d'en arrière pour s'adonner de rentrer dans la cuisine et non pas par le salon.
Donc, tu es en train de nous dire que ça se peut que ce soit une première attaque qui mène à autre chose, c'est ça?
J'ai pas assez d'informations pour le conclure. C'est une possibilité parmi plusieurs et c'est des scénarios que l'on voit partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas juste envers les institutions du Québec que ça arrive. Il faut vraiment le souligner. C'est vraiment une adresse IP, je veux dire, un site web dans l'Internet. Ça, c'est un parmi plusieurs, parmi milliards à cette heure. Et qui, les malfaisants vont s'en prendre. Ils vont voir qu'un site est vulnérable. Ils vont l'exploiter. Et après coup, ils vont l'examiner à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? La façon qui était décrite qu'il y avait des éléments malicieux, des fichiers malicieux à l'intérieur, c'était possible aussi que ça soit juste pour investir le site de ces contenus malicieux. Et après ça, ceux qui vont le consulter, ben leurs ordinateurs se font infecter par ce code malicieux-là. Et après coup, ils vont être pris à contrôle après coup parce qu'ils ont été infectés par ce code-là. J'amène ça, j'essaie d'être plus simple possible, mais c'est dans, pas trop complexe. Parce qu'après, une fois qu'un ordinateur domestique de quelqu'un qui a été consulté un site web qui était infecté, devient à ce moment-là, fait partie d'un botnet. Et des botnets, aujourd'hui, ben, les gens s'en servent. Ça peut être loué pour faire des cyberattaques massives contre d'autres sites à l'extérieur. Ça, c'est tout un écosystème d'interconnexion. Okay. C'est juste ça que j'essaie de dire.
Mais Steve, tu es un expert. Tu es un expert que je ne suis pas. Mais si tu prends le contrôle d'un site web, OK?
Oui.
Puis que quelqu'un va consulter le site web, est-ce que, à travers le contrôle du site web que tu as, est-ce que tu peux, quand la personne va poser une question au site web, OK, va entrer en interaction avec le site web. Est-ce que ça peut être la porte qui s'ouvre pour permettre aux pirates qui contrôlent le site web de rentrer dans ton ordi?
Oui, si l'ordinateur n'est pas à jour. C'est exactement le scénario qui peut se passer à chaque fois. Et c'est là l'emphase que je dois mettre sur les gens qui doivent garder les ordinateurs à jour. Comme ça, le code de malicieux qui est à l'intérieur du site web, aussitôt que la personne s'y présente avec son furteur, son browser, comme on appelle, et lit l'information de la page web, à l'inverse, le site web détecte c'est quoi les caractéristiques de l'ordinateur qui va consulter l'information.
Voilà.
Et là, le code malicieux, lui, va être assez intelligent pour dire, ben, ah, ça, c'est un Internet Explorer, telle version, je peux prendre telle attaque.
Okay.
Il s'investit dans l'ordinateur qui vient de le consulter.
Fait que ça se peut que l'attaque contre le site web de ces hôpitaux-là soit pas une première étape pour prendre éventuellement, pour attaquer des systèmes de données beaucoup plus sensibles. Ça se peut que ça soit une façon d'attendre l'interaction par des simples citoyens et de pénétrer à ce moment-là dans le système des citoyens qui viennent questionner le site web pour aller chercher de l'information, je sais pas moi, sur les heures d'ouverture ou sur le numéro de téléphone qu'il faut composer pour tel ou tel service. Ça se peut
absolument
que ça soit ça.
Okay. Et dans l'ordinateur du citoyen, à ce moment-là, c'est l'information personnelle de cette personne-là qui est ramassée, qui est cultivée et revendue après ça sur le marché noir.
Dernière question. Est-ce que à travers une opération comme celle-là, les pirates pourraient pénétrer dans Click Secure, qui est, comme on le sait, le site où on retrouve nos données personnelles, là?
Pas de la façon que le Click Secure est monté. C'est quand même un portail d'accès qui est très robuste en matière de sécurité. Il y a beaucoup de surveillance qui est apportée sur ce site-là. Et par design, il n'est pas fait pour que facilement, il y ait un code malicieux qui puisse s'y pénétrer et après ça, ouvrir les portes et donner l'information aux 80. Il y a plusieurs étapes et plusieurs couches qui amènent à ce moment-là l'utilisateur, une fois qu'il est authentifié de la bonne façon, d'aller vers ses infos, mais de façon malicieuse, il serait intercepté en route et à ce moment-là, ça serait vu. Et ne pourrait pas faire de fuite d'informations comme on le pense. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas non plus des portails qui ont accès direct à l'information patient. Ça fait que ça, il faut aussi garder en perspective, mais ce n'est pas impossible, comme je disais, que ça pourrait mener à quelque chose de plus grand plus tard.
En tout cas, ça pose la question, puis on ne va pas y répondre aujourd'hui, mais ça pose la question, est-ce que c'est une bonne idée que nos institutions publiques confient à des entreprises privées le contrôle de leur site web et de leur système de données, ou est-ce qu'il ne faut pas garder ça à l'interne? Ça, je sais que il y a un grand débat là-dessus, parce que certains vont dire les institutions publiques n'ont pas les moyens de se donner ces systèmes de sécurité robustes. Il vaut mieux s'en remettre à des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont dire ben les entreprises privées qui se spécialisent là-dedans, ben c'est des entreprises privées, justement.
Exactement, Bernard, puis ils vont y aller toujours au plus économique. Souvent, ce qui, des fois, fait défaut, c'est la façon que le contrat est monté pour demander le service à l'entreprise privée. Fait que l'entreprise privée va prendre le contrat, va regarder qu'est-ce qui est demandé à l'intérieur et va s'y conformer à 100%. Mais c'est parce qu'il y a des gens là-dedans qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances voulues, qui n'ont pas écrit toutes les bonnes mesures à prendre, que là, lui, après ça, quand le fournisseur il arrive à un incident de sécurité, bien, il va regarder son contrat. Bien, tu m'as juste dit de faire A, B, C, D. Tu m'as jamais demandé de faire jusqu'à Z.
Ouais,
fait que c'est de cette manière-là qu'il y a des éléments de certification et d'accréditation qui devraient être remis en avant-plan pour que ça reflète l'idée que ce soit aussi sécur au gouvernement qu'au privé.
Steve Waterhouse, ancien officier donc de sécurité informatique au ministère de la Défense, aujourd'hui conseiller en sécurité informatique. Merci Steve.
Au plaisir, bonne journée.
Toi aussi. Christine Girard, notre nouvelle championne olympique dans 2 minutes.